Louis Aymon. Lizzie Blakeston. Faith Street donne dans Cambridge Road et Cambridge Road aboutit à Mile End Road. Au numéro 12 de Faith Street habitait la famille Blakeston. Le père et la mère étaient venus du Lancashire peu après leur mariage et la nouvelle génération des Blakeston n'avait jamais connu comme horizon que les rangées de maisons sales et de boutiques douteuses qui s'étendent entre Mile End et Bethnal Green. À l'est, c'était Bromley et Bow, à l'ouest, Whitechapel, puis la cité, et plus loin encore, entouré d'un nuage d'irréelle splendeur, le West End, où une aristocratie légendaire vivait parmi les ors et les pourpres, dans la mollesse et les plaisirs. Les jeunes Blakeston n'avaient sur l'existence de cette aristocratie lointaine que des données assez vagues et ne s'en souciaient guère. Tout l'intérêt de la vie se concentrait pour eux dans la question sans cesse renaissante des comestibles, question dont les ressources cruellement irrégulières de la famille faisaient trop souvent un insoluble rébus. Quand les fonds étaient bas et le crédit épuisé, les repas se composaient uniformément de thé faible et de pain vaguement frotté de margarine, et encore les tranches étaient-elles parfois d'une minceur criminelle. Ces contretemps affligeaient surtout Bunny, gros garçon mélancolique dont les 8 ans étaient hantés par des rêves d'abondante nourriture. Aux époques de famine, il promenait sa tristesse devant la boutique où l'on vend du poisson frit et des pommes de terre, ou devant celle encore où s'étalent, à côté des quartiers de viande, de massifs puddings aux suifs parsemés de raisins rares, et l'odeur délicieuse de la graisse chaude augmentait son désespoir. Aux jours d'abondance, il mangeait avec une résolution sauvage, et même repu, il était sans gaieté, prévoyant les jeûnes à venir. Sa sœur Lizzie était, comme il convient à son sexe, moins exclusivement préoccupée de ce genre de choses. Elle n'hésitait nullement, à l'occasion, à repousser par la violence les incursions tentées par son jeune frère sur sa part de victuailles. Mais quand les victuailles manquaient, elle affectait volontiers et sans grand effort une légèreté de cœur qui remplissait Bunny d'admiration. Il ne pouvait comprendre que sa sœur avait pour la soutenir, au milieu des privations et des déboires, son art, qui lui était un idéal et une consolation. Lizzie était danseuse. Dans n'importe quel quartier populeux de Londres, on peut voir, autour des Italiens et de leurs pianos mécaniques, de petites filles évoluées par pairs, convaincues et solennelles, levant légèrement sur l'asphalte grasse des souliers éculés. Elle méprise la polka enfantine et la valse langoureuse. Leur danse est un curieux mélange de gig, de pavane et de cakewalk. Mais la cadence est impeccable, la souplesse du genou et de la cheville révèle de longues années d'entraînement, et elles apportent à l'accomplissement du rite une gravité qui impose le respect. Lizzie Blakeston était, à l'âge de 12 ans, la meilleure danseuse de Fay Street, de Cambridge Road et peut-être de Two Mile End simplement. Qu'un orgue se fit entendre dans un rayon d'un quart de mile autour de sa demeure, et elle arrivait en courant, assujettissant d'une main sur sa tête un canotier délabré. Elle réparait rapidement le désordre de sa toilette, tirait un bas, relevait une manche, repoussait dans le rang un faisceau de mèches rebelles, puis elle dansait et les ballerines locales rentraient dans l'ombre. Pas un piano mécanique dans Londres ne jouait un air sur lequel elle ne put broder quelques pas ingénieux. Genevieve, Bluebell, le Miséréré du Trouvert ou la Marseillaise, tout servait indifféremment à son jeune génie. La grâce mièvre du menuet et l'excentrique audace du cakewalk se fondaient dans les évolutions de ses jambes minces revêtues de bas troués. L'harmonie exorbitante qui s'échappait à flots du piano mécanique s'emparait d'elle comme une main impérieuse, faisait monter vers le ciel en geste d'offrande ses minces souliers jaunes, rythmait le mouvement de ses bras balancés, la courbait et la relevait, enveloppait ses moindres gestes dans une irrésistible cadence. Et saisie d'une glorieuse ivresse, Lizzie sautait, pirouettait et se trémoussait dans l'étau de la mesure, offrant au monde obscurci un sourire vague et des yeux hallucinés. Puis c'était le silence. L'Italien reprenait sa place entre les brancards et s'éloignait. Il ne restait plus que quelques passants attardés, des gamins gouailleurs, Bunny assis sur le trottoir, sortant périodiquement de poches invisibles des victuailles inattendues, et Mile End Road par un soir d'hiver, la chaussée gluante et sale, et les lumières clignotant dans le brouillard. Les années passèrent, mais les années ne comptaient guère dans Fay Street. Au dehors peut se déchaîner le tumulte des catastrophes ou des guerres. Les souverains ou les ministres peuvent lancer des proclamations, les banques crouler, les industriels faire fortune, et les actrices épouser des pairs. Toutes ces choses ne pénètrent pas le cœur de Faith Street. Loin dans l'ouest se déroulent les pompes des couronnements et des funérailles. Les candidats aux élections prochaines implorent, le long d'affiches fulgurantes, les votes du peuple souverain. Les vendeurs de journaux passent en courant dans Cambridge Road, hurlant des nouvelles de défaite. Mais Faith Street n'en a cure. Et quand la nuit tombe, elle sort des maisons, et d'une porte à l'autre commente d'une voix lamentable les thèmes éternels. La rareté du travail, la cherté du lard et l'iniquité des époux. Ce n'est pas que les époux soient en réalité plus coupables là qu'ailleurs. Seulement, ils sont généralement sans travail. C'est une circonstance curieuse que tous les hommes sont sans travail dans Fay Street. Et comme il n'y a rien chez eux qui les porte à la joie, ils s'en vont poursuivre leur idéal de la seule manière qui leur soit possible, à deux pences le verre, au-dessus d'un comptoir de bois. Quand l'argent manque, ils s'adossent au mur du pub et contemplent le trafic en fumant des pipes résignées. Ou bien ils s'en vont chercher du travail, n'en trouvent jamais et reviennent vers le soir, altérés naturellement et pleins d'une tristesse légitime. Ils sont reçus avec des reproches et des injures, donnent libre cours à leur indignation, et Fay Street s'emplit de clameurs aiguës et du bruit de chaises renversées. Les enfants sont dehors, ils ramassent dans les voies adjacentes des débris de bois et de papier, font un feu au beau milieu de Fay Street, et jouent à essayer de s'y pousser l'un l'autre. À des intervalles irréguliers, ils rentrent dans les maisons pour voir s'il y a quelque chose à manger, mais sans grand espoir. Lizzie Blakeston grandit parmi toutes ces choses. À 13 ans, elle était chargée de tous les travaux du ménage, pendant que sa mère nettoyait des magasins dans Bethnal Green. L'entretien sommaire des quatre pièces de la maison, la confection occasionnelle des repas, la séduction quotidienne de l'épicier et du boulanger, qui refusaient de continuer leur crédit, lui prirent désormais le plus clair de son temps, et il ne lui resta plus guère de loisirs à consacrer à son art. D'ailleurs, Lizzie prenait au sérieux ses devoirs et en tirait une dignité de manière qui provoquait parmi ses connaissances de Cambridge Road d'amères railleries. Quand elle regagnait sa demeure, Bunny trottait sur ses talons, portant une miche ou le pot de bière paternelle, et elle n'accordait qu'une attention distraite aux jeunes personnes qui évoluaient autour d'un piano mécanique, exhibant devant des spectateurs plutôt narquois toute la gamme de leurs pas et de leurs altitudes. Invariablement, une des danseuses s'arrêtait et disait d'un ton mi-aimable et mi-moqueur « Allô, Lizzie !» Lizzie renfonçait un vestige de regret, répondait gracieusement « Allô !» et passait avec un sourire. Ce sourire disait aussi clairement qu'auraient pu le faire des mots. « Amusez-vous, mes filles, mais la vie n'est pas un jeu, comme vous vous en apercevrez tôt ou tard. » D'ailleurs, si Mr. Blakiston père ne trouvait pas à manger quand il rentrera, ça ferait des histoires. La vie avait pourtant ses bons moments. Le samedi soir, Lizzie revêtait une robe de velours groseille, trop vieille pour pouvoir être engagée ou vendue, mais qui produisait encore une certaine impression de splendeur. Ses cheveux, roulés en papillote toute la semaine, étaient enfin déroulés et formaient une frange gracieusement ondulée qui cachait son front, sans compter deux rouleaux disciplinés au-dessus de chaque oreille. Les débris de son canotier étaient rassemblés sur sa tête et maintenus au moyen d'une longue épingle dont la tête de verre taillée scintillait aux lumières des boutiques comme un authentique diamant. S'il se trouvait que ses bottines étaient trouées ou avaient égaré leurs semelles, elle se contentait de les ignorer. Bunny, dédaigneux de ses frivolités, ne songeait même pas à modifier sa toilette, mais il la suivait aveuglément, et tous deux s'en allaient vers Mile End Road, dont les larges trottoirs, la veille du sabbat, se bordaient de merveilles. Les boutiques n'avaient rien de changé. C'étaient toujours les mêmes étalages qui, du lundi au vendredi, avaient présenté dans le même ordre immuable les mêmes marchandises. Mais le samedi soir leur prêtait une majesté spéciale. 5 jours sur 7, ce n'étaient après tout que des magasins où les gens qui avaient de l'argent pouvaient entrer et acquérir contre espèce des choses assurément enviables. Mais le samedi soir, leur caractère vulgaire de boutique disparaissait, et chaque vitrine devenait une des attractions d'une grande foire merveilleuse. Certaines de ces vitrines excitaient pourtant chez Lizzie et Bunny une convoitise directe et qui n'allait pas sans amertume. Il était un restaurant dans Whitechapel Road dont la vue les retenait longtemps captifs, suçant lentement leur salive et soupirant par intervalles. Derrière la vitre s'étalait une rangée de plats de fer blanc carré qu'un foyer invisible chauffait doucement par en dessous. Dans un des plats, des saucisses rissolaient dans la graisse. Dans un autre, c'étaient des portions de viande de formes variées. D'autres encore contenaient des pommes de terre en purée ou des oignons frits. Sur une plaque de tôle, des puddings bouillis ou cuits au four, montrant leurs raisins, fumaient lentement. Derrière les plats se mouvait lentement un homme d'aspect auguste, revêtu d'un tablier, en bras de chemise et les manches relevées jusqu'au coude. Il piquait les viandes d'une fourchette attentive, élevait ou démolissait au gré de son caprice les montagnes d'oignons et empoignait les puddings à pleine main pour mieux les partager. Des pancartes appendues au mur vantaient la modicité des prix. Saucisses et purées, 2 pence et demie, légumes ou pâtisseries, 1 penny la portion. Thé, café ou cacao, 1 penny la tasse. Après une longue contemplation, Lizzie disait invariablement d'un ton détaché « Bon, vous n'avez pas réellement faim, Bunny. » Bunny répondait « Non, sans conviction » et finissait par se persuader lui-même. N'ayant pas réellement faim, il pouvait donc contempler d'un œil égal les petites voitures où des marchands ambulants débitaient des coquillages empilés dans une soucoupe et arrosés de vinaigre, ou des morceaux d'anguilles flottant dans une gelée molle, et aussi les tas de bananes et de pommes, les gâteaux recouverts de sucre, et les débris de chocolat suisse vendus au rabais. D'ailleurs, il y avait bien d'autres choses à voir dans Mile End Road. Devant les portes du pavillon, des affiches illustraient les phrases les plus tragiques du drame en cours. L'une d'elles montrait le bandit mondain, revêtu d'un habit de chasse écarlate, serrant sur sa poitrine avec un rictus hideux l'héroïne dont le visage se convulsait d'indignation. Une autre représentait le ring et 2 pugilistes au torse nu. L'un d'eux, qui venait de jeter son adversaire à terre, étendait le bras vers un homme dans la foule et prononçait d'une voix terrible « Voilà l'homme qui m'a volé mon épouse !» La terreur abjecte du misérable et le juste courroux du boxeur était reproduit en ton vif et d'une façon saisissante. Enfin, il y avait la foule, le flot incessant d'humanité qui oscillait entre Whitechapel et Stepney, passant, regardant, marchandant, passant sans relâche. Il semblait que toute la lumière fût concentrée sur le trottoir et que le reste ne fût qu'un grand noir profond. Des gens sortaient de l'obscurité. Sous la clarté des vitrines ou des flammes fumeuses des lampes de forains, leurs figures s'illuminaient, devenaient un instant proches et vivantes et disparaissaient de nouveau. La plupart n'offraient pour Lizzie aucun intérêt. C'étaient des gens comme on en voit tous les jours, même dans Fay Street. Des ouvriers qui passaient avec leurs femmes, une pipe en terre à la bouche et un enfant dans les bras. Des amoureux, des mères de famille achetant leurs provisions du dimanche. La jeunesse dorée de Mile End, flânant indolemment sous la voûte de la brasserie où l'on débite de la bière par deux fenêtres. Lizzie n'y faisait pas attention. Mais quand passait un groupe de jeunes juives, portant avec aisance leurs toilettes cossues, elle les suivait d'un regard hostile et pourtant chargé d'admiration. Mr. Blakestone, père, dans ses moments d'éloquence, se plaisait à tonner contre ces étrangers, importés évidemment de pays à demi-sauvages, qui venaient s'établir par myriades dans l'East End et arrachaient leurs moyens d'existence aux honnêtes travailleurs. Il ne se lassait jamais de flétrir conjointement et eux et le gouvernement qui les tolérait. Le mépris héréditaire de l'ouvrier anglais pour les « foreigners », comme il disait, se mêlait chez lui à l'âpre rancune des dépossédés envers les concurrents plus économes ou plus habiles. Lizzie l'avait entendu maintes fois traiter ce thème, et elle embrassait tous les immigrés de Whitechapel et d'alentour dans le même écrasant dédain, qui se mélangeait de craintes presque superstitieuses. Envers les hommes, le dédain prédominait, leurs nez charnus, leurs yeux encore inquiets, leurs lips parfois arrogantes et parfois serviles les marquaient, aux yeux de Lizzie, du sceau indiscutable des races inférieures, mal connues, latines, turques ou nègres, qui s'agitent dans les contrées vagues du sud, sur lesquelles ne règne pas encore la paix britannique. Mais quand des jeunes filles de la deuxième génération passaient ensemble, roulant des hanches dans leurs robes opulentes, copieusement poudrées, un soupçon de rouge aux lèvres, les yeux profonds, grasses et fortes, l'air insolent, le cœur de Lizzie débordait d'amertume et d'envie. C'était l'injustice écrasante du sort, le crève-cœur du bonheur immérité d'autrui, le fardeau d'extravagants désirs et la certitude de leur futilité. Car Lizzie ne croyait guère au miracle. Et elle s'en allait. Fay Street s'ouvrait dans la nuit comme un couloir obscur. Il y avait une attente prudente au bas de l'escalier, l'oreille tendue, afin d'apprendre si Mr. Blakestone, père, n'avait pas, ce soir-là, l'humeur mauvaise. Et si rien n'indiquait un danger immédiat, on allait se coucher sans bruit. Un jour vint où la robe de velours groseille se révéla vraiment par trop insuffisante. Lizzie avait grandi, et comme fort naturellement elle continua à grandir, laissant derrière elle les ornements éclatants qui avaient été le seul orgueil de son enfance, elle entra dans la maturité de ses 15 ans. Les 15 ans de Lizzie n'eurent rien d'impertinent ni de frivole. À cet âge, les jeunes beautés de Mile End Road se préparent à l'amour, en échangeant avec les représentants du sexe ennemi, au hasard des rencontres, des grimaces, des bourrades ou des propos facétieux hurlés d'un trottoir à l'autre. Et quand, cédant à l'inéluctable, elles entrent, vaincues et dociles, au pays du tendre, les premières haltes sont faites devant la petite voiture du marchand de glace, dans la boutique où l'on vend des oranges, ou la galerie à 6 pence du pavillon. Au milieu de ces tentations affolantes, Lizzie passa comme une héroïne de sonnet, doucement indifférente, supputant le prix du lard et la quantité de pain nécessaire à la famille. À vrai dire, elle ne mettait aucun amour-propre à remplir en conscience ses fonctions de ménagère, Elle avait seulement très peur des brutalités et des scènes, et s'efforçait d'y échapper. Une fois l'indispensable fait, elle contemplait avec une sérénité parfaite le désordre et le délabrement du logis. Elle l'avait toujours connu ainsi, et n'éprouvait aucun désir de réforme. Elle préférait s'asseoir près de la fenêtre et laisser couler les minutes et les heures sans penser à rien, avec le sentiment obscur que chaque moment représentait quelque chose de gagné, un peu de vie passée sans ennui grave, une étape de plus accomplie sans effort vers cette chose qu'elle attendait et qui ne pouvait manquer de venir. Ce n'était pas le prince bleu qu'elle attendait. Si l'événement qui était en route s'était révélé être l'apparition d'un jeune cavalier d'une beauté merveilleuse, Lizzie eût été cruellement désappointée. Ce serait quelque chose de bien mieux, quelque chose qui changerait tout, qui changerait à la fois Lizzie elle-même, la couleur du ciel, Faith Street, le monde entier et l'humanité qui l'habitait. Cela tirerait au-dessous d'un certain moment de sa vie un gros trait définitif. Et il y aurait une grande voix exultante qui annoncerait « Maintenant, nous allons tout recommencer !» Et le recommencement serait quelque chose de si merveilleux qu'elle n'essayait même pas de l'imaginer. Quand elle se sentait fatiguée d'être assise, Lizzie se levait et s'étirait doucement. Elle n'avait ni retour morose à la vie, ni réveil amer, car elle n'avait pas rêvé, elle n'avait fait qu'attendre. Et comme rien n'était venu cette fois encore, et qu'il se faisait tard, elle allumait un fourneau à pétrole pour préparer le repas du soir. C'était une vie monotone, mais elle ne songeait pas à s'en plaindre. Et quand un changement survint, ce fut sous une forme qui ne lui apporta que de l'ennui. Mr. Blakeston, père, à qui l'expérience de toute sa vie avait sans doute enseigné les dangers de l'oisiveté, s'avisa que les soins du ménage ne constituaient vraiment pas une occupation assez sérieuse pour absorber tout le temps de sa fille. Et après quelques aphorismes sur la sainteté du travail, il se mit en quête. Ses efforts furent couronnés d'un succès inespéré, car après quelques semaines de recherches poursuivies avec une belle activité, il put annoncer à Lizzie qu'il avait obtenu pour elle un emploi dans une corderie de Commercial Road, au gage de 8 shillings par semaine. Lizzie ne montra aucune joie, elle se contenta d'obéir. Il lui fallut désormais se lever très tôt, ce qu'elle n'aimait pas, et sortir encore mal éveillée dans le froid du matin blafard. Il lui fallut travailler 11 heures par jour dans un atelier obscurci de poussière flottante, entre des cloisons qui vibraient perpétuellement sous le ronflement des machines qui tournaient au-dessous. Et Lizzie n'aimait pas le travail. Elle se résigna pourtant. D'abord parce qu'elle était riche de toutes les vertus passives, et puis parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Ses compagnes de l'usine la regardèrent d'abord avec méfiance. Lizzie ne faisait que de faibles tentatives pour rehausser d'artifices de toilette ses charmes naturels. Elle préférait à tous les autres les amusements simples, qui ne demandent que peu d'efforts, les plaisirs placides de petites filles paresseuses. Enfin, aux propos facétieux ou galants des jeunes hommes, elle ne trouvait d'autre réponse qu'un sourire pâle ou une phrase de politesse dérisoire. Elle n'éprouvait aucune confusion et ils étaient tous très gentils, mais cela ne tirait pas à conséquence. Les lionnes de la corderie la jugèrent en peu de temps et sans appel. Elle ne serait jamais qu'une petite dinde. D'autres prirent pour de la hauteur son détachement candide et parlèrent avec une moue dédaigneuse de cette petite qui faisait des manières. Mais rancune et dédain vinrent s'émousser peu à peu sur l'inaltérable simplicité de Lizzie. On se fatigue vite de prodiguer des moues arrogantes à quelqu'un qui ne semble pas s'en offenser, et Lizzie ne s'offensait de rien. Son souci principal était de n'être pas en retard le matin et d'éviter les histoires, et elle était toujours prête à rendre service, non pas tant par désir d'obliger que parce que sa propre peine la laissait presque indifférente. Quand les hostilités du début disparurent et qu'on prit l'habitude de lui donner des tapes amicales sur l'épaule, en disant d'un air mi-attendri et mi-moqueur « Bah, elle n'est pas méchante, Lydie !» Ces témoignages d'amitié ne l'atteignirent guère plus profondément que ne l'avaient fait les offenses. Elle les reçut avec le même sourire faible, qui semblait une façade de charme inoffensif et doux devant des espaces vagues, des limbes obscures qu'elle-même ne connaissait pas. Le samedi où elle toucha pour la première fois son salaire de la semaine, la journée de travail avait été courte et, quand elle sortit de l'usine, c'était encore le grand jour de l'après-midi, un jour clair qui donnait à Commercial Road un air de fête. Tous ces gens qui passaient sur le trottoir avaient comme elle fini leur travail et rentraient chez eux. Les voitures et les camions passaient très vite, bruyamment, dans la hâte de la dernière course. Et toutes les figures avaient déjà pris leur air de vacances. Lydie s'en alla par les rues, contente de sentir le bon soleil sur sa nuque, et songeant aux 8 shillings qu'elle tenait dans sa main fermée. Les poches n'étaient pas assez sûres, il s'y trouverait probablement quelques trous insoupçonnés, et l'idée de sa semaine de travail semée au hasard des ruisseaux la secouait d'un frisson d'horreur. Il était à la fois plus prudent et plus agréable de tenir l'argent dans le poing bien serré. Ce ne fut qu'après un peu de temps qu'elle s'avisa que cet argent était bien à elle. Elle pouvait se demander comment elle allait le dépenser, et il lui vint presque tout de suite à l'idée que ses parents s'attendraient certainement à en recevoir une partie. Elle n'était pas très sûre que ce fût juste, et elle savait fort bien que cela lui serait désagréable, mais elle savait aussi qu'il serait inutile de résister. Elle s'arrêta un instant et, ouvrant la main, contempla son trésor. Il y avait 2 demi-couronnes et 3 shillings séparés. Alors, une vague d'héroïsme l'envahit toute, et elle décida soudain qu'elle ne garderait pour elle que les 3 shillings. Elle sacrifiait ainsi toute idée d'achat magnifique, car on ne peut pas avoir grand-chose pour 3 shillings. Mais il y aurait encore de quoi acheter des portions de poisson frit et des pommes de terre pour Bunny et pour elle, et puis 2 glaces, 2 places de théâtre, et peut-être resterait-il encore de quoi acquérir un collier de perles le lendemain matin dans Middlesex Street. Quand elle arriva chez elle, elle trouva Mr. Blakeston père qui semblait l'attendre. Il fit observer que c'était vraiment bien agréable d'avoir ainsi la moitié de la journée de libre. Puis il demanda avec simplicité « Où est l'argent ?» Lydie lui remit les 2 demi-couronnes. Il les regarda un instant en haussant les sourcils, les fit passer dans sa paume gauche et tendit de nouveau la main. Si Lydie avait parlé, elle aurait probablement formulé un vain appel à la justice, une protestation indignée, peut-être aussi des propos qui eussent appelé un châtiment. Mais elle ne dit rien. Elle ouvrit la main gauche, sa pauvre main moite où les 3 pièces d'argent avaient laissé leur empreinte sur ses doigts crispés, et quand sa main fut vide, elle comprit définitivement que ce monde n'était qu'une erreur, le produit d'un gigantesque malentendu dont il lui fallait souffrir. Blakeston père fit sauter l'argent dans sa main, donna 2 shillings à sa femme pour acheter des provisions, puis, laissant tomber le reste dans sa poche, sortit en sifflotant. Lydie, restée seule avec Bunny dans la pièce, s'assit sur une chaise et regarda par la fenêtre. Un grand morceau de carton, appuyé contre un côté de la vitre, servait à la fois de volet et de rideau. Sur l'autre moitié, il y avait un chiffon de toile bleue, fixé avec 2 épingles et relevé en partie. Le soleil avait déjà disparu de Fay Street. Il devait luire encore quelque part de l'autre côté des maisons, mais sa lumière avait abandonné les 2 rangées rapprochées de façades moisies, et déjà régnait un demi-jour morne qui annonçait avant l'heure l'approche du soir. Après un silence, Lydie dit d'une voix tremblante « S'il m'avait laissé l'argent, je vous aurais payé un grand dîner, Bunny. » Et le théâtre. Bunny répondit faiblement Ça ne fait rien. » Et Lizzie se mit à pleurer. Elle pleurait doucement, presque sans bruit, comme un enfant fatigué. L'ombre arriva lentement cacher les murs sales et emplir la chambre. De la pièce voisine vint d'abord un bruit de pas et de portes secouées, puis celui de la graisse qui fondait en grésillant. Bunny, malgré lui, prêta l'oreille, et Lizzie, cessant de pleurer, croisa les bras sur le dossier de sa chaise et appuya le menton sur ses poignets. « Leur sale usine, dit-elle, faut pas qu'ils s'imaginent que je vais y rester toute ma vie. » Bunny répondit « Bien sûr ». Après un silence, elle reprit avec plus d'assurance. « Qu'est-ce que ça peut me faire après tout, leur sale usine ? C'est pas comme si ça devait durer toujours, n'est-ce pas ?» Et Bunny, faute de mieux, répéta « Bien sûr ». Lizzie était depuis quelque temps à l'usine, quand le cours monotone de sa vie fut interrompu par un événement, un grand événement. L'oncle Jim vint à Londres. Elle avait à peine soupçonné son existence. Il n'avait jamais été pour elle qu'un personnage légendaire et lointain, obstinément attaché au pays noir qui avait été le berceau de la famille. Et voilà qu'en rentrant un soir, elle le trouva installé sur la meilleure chaise de la maison, partageant un pot d'ale avec Blakestone père, et proclamant à haute voix, avec un formidable accent du Lancashire, son mépris irréductible de la capitale et de ses habitants. Il faisait d'ailleurs exception pour la famille de sa sœur. Les Blakestone, à ses yeux, n'étaient comme lui que des colons contraints par les nécessités de la vie à l'exil parmi les barbares. Au premier coup d'œil, il discerna que Lizzie était restée une véritable fille du Lancashire, et s'en tint à cette affirmation. Toutes les vertus qu'il estimait être l'apanage exclusif des comtés du Nord se trouvaient réunies en Lizzie, et sur ses défauts évidents, il ferma les yeux. La vérité était qu'il avait conçu de suite pour sa nièce une tendresse profonde de vieil homme solitaire, et les avantages de son affection protectrice se firent promptement sentir. D'abord, il fit savoir à tous qu'il ne tolérait pas qu'on ennuyât Lizzie, et l'autorité d'un homme qui gagne 5 shillings par jour est une chose que Fay Street ne discute pas. De plus, il décréta qu'il prenait en main l'éducation de sa nièce, et que, avant toute chose, il était urgent et indispensable qu'elle apprit à jouer de l'accordéon. Il possédait un de ses instruments et le maniait avec une virtuosité étonnante. C'était son unique talent et sa distraction principale. Et il remarquait lui-même volontiers que, pour avoir atteint sans instruction musicale une semblable maîtrise, il fallait que ses aptitudes naturelles eussent été bien au-dessus de l'ordinaire. Quand il jouait de la musique sacrée, les airs des hymnes et des psaumes sortaient de l'accordéon avec tant de force et de majesté qu'il semblait que ce fût la voix de l'Éternel lui-même tonnant entre les nuages. Et quand il redescendait vers les mélodies sentimentales du moment, la plainte traînante de l'instrument se faisait toujours si touchante et si tendre qu'on était forcé de croire que le soufflet de cuir vert contenait une âme prisonnière qui, pétrie entre ses paumes impitoyables, exhalait sa douleur harmonieuse sur un rythme approprié. Quand Lizzie l'entendit exécuter pour la première fois « Genevieve, Sweet Genevieve », avec des ralentissements langoureux aux bons endroits, elle retint son souffle et pensa défaillir. Elle avait toujours conservé une tendresse secrète pour les pianos mécaniques, les orgues et les fanfares, mais ceci était différent. C'était l'enchaînement miraculeux des sons, la vraie musique enchanteresse et poignante qui lui était révélée. Et la seule idée qu'elle, Lizzie, pouvait aspirer à produire ces harmonies quasi divines la remplit d'un trouble profond. Ce ne fut donc pas la bonne volonté qui lui manqua, et elle eut en l'oncle Jim un professeur admirable, plein du feu sacré et d'une patience infinie. Pourtant, ses progrès furent presque insensibles. Et l'oncle lui-même, tout en l'encourageant à persévérer, dut avouer que Lydie ne semblait pas destinée à devenir jamais une des gloires de l'accordéon. Même après qu'elle eut à peu près compris le maniement subtil des poignets et des trous, les premiers rythmes rudimentaires qu'elle sut évoquer manquaient absolument de vie. L'instrument, qui sous les doigts experts du professeur venait de mugir avec majesté et de soupirer avec tendresse, ne produisait entre ses mains qu'une plainte anémique, une pauvre mélodie heurtée et faible, moins un chant qu'une lamentation molle, interrompue, malhabile, l'appel pitoyable d'une petite âme élémentaire et triste. L'oncle Jim reprenait l'accordéon, faisait une démonstration, donnait quelques conseils, prêchait la force et l'audace, et Lydie recommençait courageusement, serrant les lèvres et ouvrant des yeux étonnés sur ses insuccès. Quand il la voyait prête à se décourager, l'oncle interrompait la leçon et jouait un des airs de son répertoire pour terminer agréablement la soirée. D'autres fois, il condescendait, pour amuser Bunny, à reproduire avec son instrument des piaillements d'oiseaux, des grondements de tonnerre et des clameurs aiguës de chiens écrasés. Et Lydie oubliait son désespoir et riait aux larmes. Un soir, il attaqua un air de Cakewalk, et Lydie, entraînée par la musique, se leva d'un saut, empoigna sa jupe à pleine main et se mit à danser. Voilà longtemps, bien longtemps qu'elle n'avait pas dansé, mais tous les pas qu'elle exécutait jadis lui revinrent à la mémoire en un instant. Et quand elle eut parcouru deux fois d'un mur à l'autre la pièce étroite, elle était redevenue la petite fille au bas troué que la ritournelle d'un piano mécanique grisait comme un filtre puissant. L'oncle, qui l'avait d'abord regardé faire avec un sourire, fit signe à Bunny d'écarter les chaises et, accentuant la cadence du heurt de ses gros souliers sur le plancher, il joua tous les airs de danse qu'il connaissait, valse, polka, gigue, en fredonnant et dodelinant de la tête. Et Lydie dansa. Elle dansa parce que chacune des mesures de la musique lui parlait avec une voix différente, lui chuchotait de tourner, de sauter d'un pied sur l'autre, de faire claquer ses talons sur le plancher ou de s'avancer en tendant les bras. Elle suivait le rythme parce qu'elle se sentait forcée et le rythme entrait en elle et lui suggérait les gestes nécessaires, soulevait ses pieds et les forçait à suivre le pas précis d'un tracé invisible. Faisait monter les genoux, balançait le torse frissonnant sur les hanches raidies, ployait le cou mince sous un lourd vertige. Il y avait des cadences vives et claires qui semblaient remplir la chambre de joie et donner aux membres une légèreté surnaturelle, et des cadences délirantes qui exigeaient des gestes brusques et le martèlement brutal des pieds fiévreux sur les planches. Lydie les suivait toutes aveuglément, déroulant d'un mur à l'autre sa danse sans nom et sans règle, grave comme un rite, primitive comme le vol ivre d'un moucheron dans une traînée de lumière. Puis le monde s'arrêta avec un choc, et il sembla que l'ombre descendait tout à coup, inexorable, après une longue attente. La musique s'était tue, et Lydie était assise sur une chaise, haletant un peu, avec un faible sourire étonné. L'oncle posa l'accordéon par terre, appuya les mains sur ses genoux et poussa un long sifflement. « Mais petite, dit-il, c'est que vous savez danser !»